Une radio, une appli connectée à notre région. Vous écoutez ici, il est 1h. Ici, soutien la musique locale.
Écoutez Jean-Baptiste Guégan et Chimène Badi, est-ce que ça vaut la peine ?
Les draps froissés, comme des armes de guerre,
couvrant comme les sanglots le bruit de mes larmes.
Dans ce nouvel extrait de l'album De l'ombre à la lumière, la voix la plus puissante du Trégor rencontre celle magnifique de Chimène Badi pour un duo musical intense.
Mais est-ce que ça vaut la peine?
Est-ce qu'on osera
oublier qu'on s'aime?
On s'aimera.
On s'aimera. Mais est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on osera?
Jean-Baptiste Guégan, Chimène Badi, est-ce que ça vaut la peine?
D'un coup de cœur, ici Bray Zizel.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici Picardie.
Ils sont jeunes et ont un avis sur tout. Ici Picardie donne la parole au Tchou Picard. Annick Bonhomme.
C'est quoi la jalousie?
Là, je suis invitée à un anniversaire. Et par exemple, mon pote, mon copain, il n'a pas été invité, bah, c'est un peu de la jalousie. Enfin, c'est pas de la jalousie, mais il invite qui veut, mais...
Il y a des gens, des fois, ils aiment pas des personnes, t'aimes pas non plus, mais des fois, juste pour te rendre jaloux, les personnes qu'ils aiment pas, ils deviennent amis avec eux, alors que toi, ils te laissent tout seul. Mais sinon, la plupart du temps, c'est les autres qui sont jaloux de toi. Toi, au moins, tu sais ce que tu vaux et du coup, t'as pas à être jaloux des autres.
Moi, je m'en fiche. Je regarde pas les regards des gens. Ouais. Moi, je fais ce que je veux. C'est ma vie. Je m'habille comme je veux. Je parle comme je veux. C'est pas eux, ils sont dans mon corps.
Bah, moi, j'en ai une dans mon école. Des fois, elle est plus copine avec quelqu'un qui s'appelle Inès. Elle prend Inès alors que moi, elle me laisse tout seul. Et de toute façon, là, ma mère, elle m'a dit que je l'ignore parce que j'ai pas envie de dire le mot, mais je l'aime pas.
C'est la meilleure façon de l'ignorance. C'est la meilleure façon de leur... Par exemple, s'ils veulent te parler, bah tu pars.
Si la personne laisse tomber une personne et toi tu la laisses tomber, au moins elle ressent ce que l'autre personne a ressenti. Cette personne qui me l'a fait parce qu'on était bien amis et à un moment elle m'a plus voulu me parler. Après, je voulais redevenir amie avec moi, mais je lui ai dit non parce que bah au moins elle sait ce que j'ai ressenti.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast ici Garloser.
Bonjour, je m'appelle Jean Belin, j'habite à Caissargues et je suis un passionné de maquettes. J'ai monté une maquette qui c'est une deux chevaux Charleston. J'ai mis 2 ans pour la faire. Elle est moteur, fauteuil, carrosserie, tout complet, vitrage et tout, complet. Et là, je suis en train de monter une Ferrari 330 P4 des années 60. Elle est rouge métallisée. Là, j'en suis au châssis et au moteur.
Oui, alors les moteurs avec toutes les pièces du moteur.
Toutes les pièces du moteur, les petites bougies, les câblages, les tuyaux pour l'essence, les culbuteurs, les pistons.
Il y a vraiment tout, c'est une vraie voiture.
Les échappements, c'est une vraie, ouais. vraie voiture qui ne roule pas, bien sûr,
ouais.
mais qui à la fin, elles seront avec un bouton spécial, je pourrai allumer les phares, elle klaxonne, elle fait un vroom vroom. De voiture et les feux stop marchent à l'arrière.
Depuis quand vous êtes passionné par les maquettes et qu'est-ce que ça vous procure?
Ça faisait des années et tout que je faisais. Avant, je faisais quelques petits avions, mais on m'a volé la caisse où ils étaient dedans. Et après, j'ai arrêté un petit peu. Et là, j'ai repris. Ça fait quelques années et tout. Là, pour l'instant, j'en suis à ça. Mais je pense monter une belle moto un peu plus tard.
Ouais. Vous aimez faire ça?
Oui, j'aime faire ça. Des fois, c'est un peu prenant parce que il y a des petites vis, il y a du collage à faire, c'est très minutieux.
Il faut une loupe?
Des fois, il faut une loupe, oui, parce que les vis, elles sont minuscules. Il y en a, elles font des fois, pour la Ferrari, elles font 3 mm de haut sur 1 mm de vissage. Il faut pouvoir la mettre avec des tournevis spéciaux pour la mettre bien dans l'emplacement pour pouvoir le serrer et ainsi de suite, qu'il s'en faut, quoi.
Donc, il faut beaucoup de patience.
Beaucoup de patience. Ça m'apporte de la tranquillité parce que je suis quelqu'un quand même d'assez pète sec, des fois. Et je le reconnais. J'en suis désolé, mais bon...
Ça vous calme de faire des maquettes?
Non, je ne suis pas quelqu'un de très énervé. Mais ça me fait plaisir. J'adore ça, j'aime ça.
C'est un moment de calme?
Oui, c'est un moment de calme et concentration, surtout.
Bon, et quand il y a une petite vis minuscule qu'il faut voir à la loupe, qui tombe par terre?
Eh bien, je la laisse par terre parce que j'en ai d'autres de rechange. J'ai ma réserve.
Bravo, merci beaucoup.
De rien.
Écoutez Ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Wikizef, petit guide à l'usage des étrangers du sud du péage d'Arras en vacances dans notre belle région.
Il arrive quelquefois ici ce qu'on croirait ne jamais arriver, des températures très importantes, genre qui dépassent les 25 degrés. Ce qui n'est pas un temps à mettre un gens du Nord dehors. Parce qu'en général, au bout de quelques instants, quelques mètres dehors qui lui semblent interminables et qui ressent une réelle compassion pour le homard qui fait trempette dans une eau à 100 degrés, il se retourne vers vous et dit « Je retourne à le carrette, mi, je bout de co !» Ne paniquez pas, Wikizef est là pour vous aider. « Je bout de co » n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire au premier abord, un truc en un mot seulement. D'ailleurs, on se demande ce que ça pourrait bien être comme truc, le « je bout de co ». Un jeu de plage. Et si on faisait une partie de « je bout de co » ? Un plat. Vous avez du « je bout de co » ? Ah bah je vais prendre ça. Saignante la cuisson. Un médicament ? T'as pris ton « je bout de co » ce matin ?
Définition.
Je bout de co, c'est je suis en ébullition tellement j'ai chaud. L'inconvénient du français, c'est que c'est tellement long à dire que le gens du Nord peut faire un malaise avant la fin de la phrase.
Exemple.
Je bout de co est valable aussi pour les dames qui ont des vapeurs de belle-mère. Ça peut être aussi valable pour notre ami le homard suscité qui a parfaitement le droit de dire en sortant de la marmite je retourne à mon aquarium, mi, je bout de co.
Ici. Local, musique et bonne humeur.
Thank you.
on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ICI Bourgogne.
Contes et légendes d'ICI, tous les week-ends avec ICI Bourgogne.
Il était une fois une légende à Santenay. Nous sommes en territoire viticole, toujours en Bourgogne. Cette histoire s'appelle « Les teux blancs de Santenay ». Un conte de Sandra Amani de l'ouvrage « Légende du vignoble » édité chez l'Escargot Savant. Bonjour Sandra.
Bonjour Charlotte.
Les teux blancs de Santenay, c'est un rapport avec le vignoble ?
Oui, vous allez le comprendre en écoutant cette histoire. Nous sommes le 16 juillet 1919. C'est un grand jour à Santenay. Des milliers de fleurs ont été accrochées aux portes et aux fenêtres du village. Les cloches de l'église carillonnent à toute volée et les dames portent de longues robes claires et de beaux chapeaux. Lucille, la fille d'un des plus riches fermiers du village, épouse Norbert. Un ancien soldat, issu d'une famille plus modeste, qui s'est joliment distingué durant la guerre. Mais à présent, il a décidé de déposer les armes et de renoncer à cette noble fonction pour demeurer près de sa belle. Le travail ne manque pas à la ferme. Le père de Lucille possède aussi de beaux hectares de vignobles. Norbert est certain de ne jamais s'ennuyer.
Oh, quelle chance d'être au bras de Lucille, une fille aussi belle et aussi riche. Oh, mais qu'elle était longue cette messe, j'ai cru qu'elle n'en finirait jamais.
Norbert n'a qu'un seul défaut, il ne croit pas en Dieu. Il faut dire que les horreurs de la Grande Guerre ne l'aident pas à retrouver la foi. Lucille, elle, par contre, est très pieuse.
Mon jeune époux accepte au moins d'aller à la messe le dimanche.
Les jours passent, Lucille est heureuse. Norbert est devenu un fermier travailleur. Mais certains matins, il revoit du sang jaillir de la terre. Cependant, bien vite, il oublie les bombes et fait repartir ses magnifiques bœufs tout blancs dans son champ. Le soir, il peste auprès de sa jeune épouse, toujours en train de prier pour un oui ou pour un non.
« Si ton Seigneur existait, il n'aurait pas permis tous ces morts dans les tranchées. Il n'aurait pas toléré les larmes de toutes ces pauvres femmes qui pleurent aujourd'hui, un mari, un fils, un frère. »
Lucille ne répond plus. Elle préfère garder son calme. S'énerver pourrait nuire au bébé qui va arriver prochainement. Nous sommes le 10 juin 1920. Il fait un soleil superbe à Santenay. C'est la fête Dieu. Sur les coteaux, les vignes se prélassent dans leurs jolies robes vertes. Les villageois se préparent à assister à la grande messe. Mais dans la ferme de Lucille, le climat est loin d'être aussi serein. Norbert ne veut rien entendre. Il n'ira pas à l'église. Au lieu de cela, il travaillera dans les champs.
Je t'interdis formellement d'atteler les bœufs ce matin. Au moins, si tu ne le fais pas pour moi, fais-le pour ton âme, mon chéri.
Norbert sort de la maison en claquant la porte. À midi, de retour de l'église, Lucille ne trouve pas son mari et décide de partir à sa recherche.
Oh, je vais aller voir au champ. Il doit y être avec les bœufs, pourvu qu'il ne soit rien arrivé. Tiens, quel est le plaisantin qui a amené ces trois rochers dans mon champ ? Bon, ils ne gêneront pas le labour, c'est déjà ça.
Le soir tombe, Norbert ne revient pas.
Mais où peut bien être le jeune époux de Lucille ? Pourquoi ne revient-il pas dans sa ferme à Santenay ?
ICI Bourgogne vous raconte les contes et légendes de votre région.
Quelques mois après la fin de la Grande Guerre, un jeune couple s'est dit oui pour la vie à Santenay. C'est la légende des teux blancs de Santenay, de l'ouvrage « Légende du vignoble » édité chez l'Escargot Savant et écrit par Sandra Amani.
Norbert, ancien soldat traumatisé par la guerre et jeune marié, est toujours absent. Lucille, sa femme, est enceinte, mais garde espoir depuis ce fameux dimanche où Norbert a préféré aller labourer son champ plutôt que d'aller à l'église. Dans le village, la rumeur de sa disparition prend de l'ampleur.
Ah, quel salaud ce Norbert ! En plus, il est parti lâchement en emmenant les bœufs et la charrue.
Un matin, un sentiment étrange pousse Lucille, sur le point d'accoucher, à se rendre dans le champ sous la roche fendue de son village, Santenay. Nous sommes en mars. Son gros ventre la gêne un peu pour marcher. Courageuse, elle lutte pour son enfant. Arrivée dans le champ, elle est saisie d'une violente douleur au ventre.
Appuie-toi contre moi.
Lucille a si mal qu'elle ne prête pas attention à cette voix lointaine d'homme. Machinalement, elle s'assied au pied du plus petit des rochers qui se trouve à côté d'elle. La douleur cesse et Lucille finit par s'endormir.
Repose-toi, tendre Lucille. Ton mari veille sur toi. Je ne t'ai jamais abandonnée. Je suis là, près de toi, avec nos bœufs et la charrue. Le Seigneur s'est vengé de mon impiété et m'a sévèrement puni. Ces trois rochers que tu vois là, c'est nous, les bœufs et moi. S'il te plaît, prie pour mon âme et tu me délivreras pour l'autre monde.
À son réveil, Lucille comprend pourquoi son mari n'est jamais revenu. Elle regarde un par un ces trois rochers.
Mon amour, bientôt tu ne souffriras plus. Je vais prier nuit et jour pour sauver ton âme.
Lucille se lève péniblement. Les contractions sont de plus en plus intenses. Le bébé sera là ce soir, elle en est certaine. Elle quitte le champ. Bientôt, elle reviendra près de ses rochers avec son fils ou sa fille. Et elle lui parlera de Norbert avec tendresse.
Aujourd'hui, on peut encore voir les trois blocs de pierre situés en dessous de la roche fendue. On les nomme les teux blancs de Saint-Tenay.
Eh oui, Charlotte. Le mot teux signifie roche dans les régions viticoles de Bourgogne. Il peut aussi désigner la falaise.
Heureusement, l'âme du pauvre laboureur n'est plus prisonnière de la pierre de Saint-Tenay depuis longtemps déjà. Malgré tout, si vous tendez bien l'oreille, vous pouvez encore entendre Norbert guider ses bœufs à travers champs et Lucille qui l'accompagne joyeusement en chantant.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast Ici Limousin.
Isabelle Moulin, coach professionnelle et cofondatrice d'une marque de bien-être, Terrasse Udoris.
Les Limousins sont formidables. Stéphane Pigato.
J'aurais voulu être avocate. Vers 16-17 ans, je vais faire des premiers cours de droit et je vais être assez catastrophée par certaines lois et je me dis non, c'est pas encore ça que j'ai envie de faire.
Les études se poursuivent, études commerciales, c'est ça?
Oui, j'avais...
Rien à voir avec le droit finalement.
Non, ben, c'est la notion de justice ou de justesse, je pense, qui m'habitait.
Finalement, vous terminez vos études et vous devenez agent immobilier.
Et oui, j'ai 18 ans, je vais être dans une agence immobilière Paris 5e et je vais vivre 2 ans extraordinaires à vendre des appartements. J'aurais pu rester dans l'immobilier, mais je me suis dit j'ai envie de découvrir autre chose et je vais aller faire de la vente, mais alors là plutôt par téléphone et aux entreprises.
L'amour rentre dans la vie et là il y a ce premier chemin qu'on décide de prendre.
Effectivement, je vais faire un premier choix de quitter le salariat, mais pas un choix forcément pour moi, mais pour un de mes rêves, qui aurait été celui, effectivement, peut-être, d'être mariée et maman.
Malheureusement, la vie fait que ça ne se passe pas
tout à fait comme prévu. Je vais être femme, mais ni mariée, voilà, ni maman. Mais par contre, je vais être bien sortie du salariat pour une première fois. Très vite, je vais faire, entre guillemets, des missions de consultance dans ce que je sais faire, la gestion de projet. Je vais même travailler un petit peu pour mon ancienne boîte. Et puis, j'ai un projet de dessin animé qui va arriver dans ma vie. En tout cas, à ce moment-là, le projet ne va pas aboutir.
Voilà, donc ce projet n'aboutit pas. Ça vous remet presque le pied à l'étrier pour vous dire, allez, on continue et on passe à autre chose.
Oui, je vais accepter un CDD d'un an en Finlande. Je vais être assistante réalisateur pour 2 séries de dessins animés, Angry Birds, et ça va être une aventure extraordinaire. Donc au final, le projet qui n'a pas abouti d'un côté, va me donner la légitimité d'aller bosser en Finlande pendant 1 an.
Voilà. Et après ce projet, c'est retour en France?
Je reviens en France et là, j'ai aussi des obligations. Donc, faut que je travaille en France quelques jours. Ce quelques jours va devenir 6 mois à être commercial de bord dans un TGV. Et après, il a fallu que je me pose un peu. Je suis retournée en entreprise. Il fallait que je fasse quelque chose que j'aime. Donc au contraire, je vais rentrer dans cette boîte extraordinaire. On est dans une boîte d'événementiel à l'international, des événements télé. Et je vais prendre soin des gens qui viennent pour la première fois à ces salons. Et La petite anecdote jolie, c'est que ce sont ces clients-là, notamment des Américains, qui m'ont dit, mais Isabelle, tu devrais être coach.
Comment vous en arrivez ici à Saint-Martin-Térésus, en Limousin, à côté de Limoges?
Je m'étais toujours dit qu'un jour je quitterais Paris, puisque justement j'avais été un peu au Canada, en Finlande, j'avais goûté à la nature, et je rencontre un homme. Et le Limousin, c'est moi qui le trouve, et ça va faire 5 ans maintenant qu'on a emménagé ici.
Voilà, et aujourd'hui donc coach.
Oui.
Dans quelle particularité?
J'accompagne les gens à plus de connaissances d'eux-mêmes. C'est plutôt gestion des émotions, prise de décision.
Quand vous regardez derrière, quand vous regardez dans le rétroviseur, vous referiez la même chose?
Quitter Paris, être au calme, oui. Par contre, j'ai une bonne liste des choses à pas faire. Déjà dit, donc non, pas de regret.
Les Limousins sont formidables à réécouter sur l'appli Ici.
Ici. Ici. Vous écoutez Ici.
C'est 100%.
100% chanson française.
Vous écoutez Sauvage Continent, le nouveau titre de Stéphane Echer.
Un coup de cœur ici.
Mais comment deviner, comment savoir quoi faire? Quelle grimace inventée, quel fichu inventeur? Mais comment deviner le mal qu'on peut se faire? Quel feu avait couvert? Qu'avais-tu découvert? Quel sauvage continent? Quel terrible univers? Qu'avais-tu découvert? Qu'avais-tu découvert? Quel sauvage continent? Mais comment deviner qui ira en enfer? Le prix qui paiera le plus cher, c'est la mélancolie. Les avis diffèrent. Certains voient tout en gris, certains deviennent amers. Qu'avais-tu découvert? Quel sauvage continent? Quel terrible univers? Qu'avais-tu découvert? Quel sauvage continent. Mais comment oublier en éteint pas la lumière qui un jour brille, on ne peut rien y faire. Mais comment deviner que nous serions se quitter, ne plus revenir en arrière. Qu'avais-tu découvert? Quel sauvage continent? Quel terrible univers? Qu'avais-tu découvert? Quel sauvage continent?
Écoutez Ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast Ici Saint-Étienne-Loire.
Aujourd'hui, on découvre un joyau de l'architecture moderne à Saint-Étienne, la maison sans escalier, un immeuble où l'on monte chez soi, sans marche, baigné de lumière, imaginé dans les années 1930. Et pour nous en parler, Farid Mamri, qui est médiateur culturel au service Ville d'Art et d'Histoire de Saint-Étienne. Bonjour Farid.
Bonjour.
Dans les années 20, il faut imaginer Saint-Étienne, une ville qui manque de logements sains. Que vont inventer l'architecte Auguste Bossu et l'ingénieur François Clermont?
Une idée révolutionnaire, la copropriété. Les familles pouvaient acheter leur appartement sur plan avant même la construction. Leur société, les immeubles par étage, érige 32 bâtiments entre 1933 et 1939, accessibles, modernes et déjà équipés d'ascenseurs. Une première à Saint-Étienne.
Et au cœur de cette aventure, il y a la fameuse maison sans escalier. Pourquoi ce choix?
Bossu détestait les escaliers, qu'il jugeait barbares. Il imagine une rampe en spirale, douce et large, qu'on monte sans effort. Sous une coupole en béton, 36 appartements disposés en éventail, traversants et lumineux. Grâce au pavé de verre, la lumière descend jusqu'au rez-de-chaussée. Une prouesse technique.
Et au-delà de la technique, Bossu défendait une vision sociale, j'imagine.
Oui, il voulait recréer du lien. Les habitants se croisaient sur la rampe, partageaient le lavoir du toit-terrasse. L'immeuble était pensé comme un village vertical. Au-delà de ça, on avait le chauffage intégré, salle de bain individuelle, cheminée en marbre, un confort inédit pour l'époque.
C'était même presque une utopie en vérité.
C'en était une. Des logements beaux, fonctionnels et abordables. Les matériaux étaient solides, mais économiques. Les petits appartements, ingénieusement agencés. Depuis le toit, la vue est magnifique. On aperçoit la seconde maison sans escalier, jaune, et le parc du manoir Bizillon.
Ce qui est fou, c'est que Bossu pourtant reste méconnu.
Oui, car il meurt assez jeune, à 57 ans, sans avoir théorisé son œuvre. Mais ses bâtiments, inscrits aujourd'hui au monument historique, continuent d'être habités. La preuve que son rêve d'un habitat moderne, humain et lumineux reste vivant.
Merci beaucoup Farid pour cette plongée dans un patrimoine aussi audacieux qu'inspirant.
Merci à vous.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici Besançon.
Bonjour Lise, bonjour à tous.
Les Suisses ont décidément besoin de nous pour tout. Hein.
Ouais, alors je vais pas vous faire toute la liste, on y passerait la journée, mais il y a quand même un truc qui est indiscutable. Est-ce que vous connaissez la langue suisse ? Eh ben non, et c'est normal parce qu'ils n'en ont pas, ou plutôt si, ils en ont quatre, mais en fait ils les piquent aux pays voisins. Et donc, nos voisins romands, faute d'avoir leur langue à eux, eh ben ils parlent la nôtre. Oui, les Suisses, ne vous étouffez pas, mais pensez qu'à chaque fois que vous ouvrez la bouche, c'est du français hein, qui en sort. Sans nous, vous seriez muets. Remarquez que des fois, ce serait peut-être pas plus mal.
Bon, et d'après vous, on est trop gentils.
Bah, déjà, plutôt que de leur prêter, on devrait leur louer. Hein, eux qui savent si bien dire qu'on est pauvre à côté de leur pays coffre-fort. Mais ça, bon, passe encore. Par contre, il y a une attitude qui est insupportable, c'est de se croire proprio de ce qu'on vous prête. Quand vous invitez des amis à manger, ils viennent avec un petit cadeau, mais ils n'amènent pas leurs meubles pour s'installer. Eh bien, les Suisses, si.
Ça mérite une petite explication, là, quand même.
Alors, ils n'ont pas de langue, donc pas de dictionnaire. Nous, on a le Robert. Eh bien, je vous le dis, si on les laisse faire, ils vont nous le naturaliser suisse, le Robert. Leur université a en effet fait le forcing pour entrer des mots de leur dialecte dans notre dico. Le carac. Est-ce que vous savez ce que c'est, le carac ?
Non.
Évidemment non. Eh ben, ça y est, le carac est dans le Robert. C'est une tartelette garnie d'une ganache au chocolat et recouverte d'un glaçage de couleur verte surmontée d'une pastille de chocolat. Mais une tartelette suisse.
Oh là là.
Et comble de l'insolence, ils ont même proposé d'y entrer le mot frouze. Alors je vous le dis, méfions-nous de leur intrusion dans notre belle langue française, sinon on n'est pas à l'abri d'une lente annexion. Et ça, eh ben c'est impossible ou bien ?
Merci beaucoup David. On entend le message, attention, hein, ça commence par le dictionnaire et puis après on ne connaît pas la suite. Très bonne journée et puis on se dit à demain comme d'habitude.
À demain.
Ici, la nuit, les oreilles sont grandes ouvertes sur nos meilleurs podcasts. Un podcast ici Gironde.
Bonjour, je m'appelle Julien Patrick Escos, mais on me surnomme Papy Cocos. C'est un surnom qu'on m'a donné quand j'étais plus jeune, à l'époque j'avais 14 ans, et c'est une amie d'école qui m'avait donné ce surnom. Et j'ai mon fils qui s'appelle Cocos.
Cet homme d'une soixantaine d'années est un Médocain, amoureux de sa terre, de son phare. Il se souvient d'un monument laissé à l'abandon durant son enfance, la base du bâtiment, envahie par les ronces et les herbes. Aujourd'hui, le phare de Richard est restauré, il se visite, l'enfant du pays est même devenu le gardien du phare. Cocos, qui d'ailleurs a plus un look de corsaire que de gardien.
Oui, oui, tout à fait. Parce que bon, quand les enfants viennent, ils me voient avec mon bandana, je suis le pirate.
Alors justement, comme les gosses, comme les gamins, comme les drôles, ici, nous allons visiter ce phare.
Oui, mais bon, il est pas grand.
Il est pas grand, bon, on le voit.
Oui, mais bon, j'avais ma collègue Aurélie qui a travaillé moi cet été, comme elle disait, c'était son petit phare.
Quelles sont ses dimensions exactement ?
16 mètres de haut.
Et quelle est son histoire ? Pourquoi a-t-il été construit ici, juste en bordure de l'estuaire de la Gironde ?
Et apparemment, autrefois, il y avait un arbre qui est tombé. Les pêcheurs, avant, se fier à l'arbre. Et après, ils n'avaient plus aucun repère. Ils ont fabriqué ce phare à la suite.
Tout est lié à un arbre, c'est fou quoi.
Voilà, au départ, c'est un arbre.
On va rentrer, vous avez un trousseau de clés qui vous sert à quoi ? À ouvrir le phare, tout simplement ?
À ouvrir le phare. Caline ! Caline ! Caline !
Et Caline, c'est votre chienne donc ?
Oui, oui, c'est ma chienne. Ça fait 3 ans, comme un mois, qu'elle vit ici.
Ah ouais, dans le phare alors du coup ?
Ben, elle vit dans l'appartement à côté, oui, avec moi.
Elle garde bien le phare ou pas ?
C'est plutôt la gamelle.
Où va-t-on là ?
Je vais vous faire visiter moi chez moi, là où j'habite, là où je vis tous les jours, enfin, où je dors le soir. C'est là où je passe mes journées.
Un bâtiment qui est collé au phare. Ah oui, il y a la cuisine en face.
Et à côté, j'ai mon salon. J'ai même la télé, j'ai tout ce qu'il faut.
À 7 ans.
Je vais sur ICI, parce que bon, les autres chaînes ne me plaisent pas trop.
La 3 ?
Voilà, c'est ça.
Comment vit-on à l'intérieur d'un phare?
Non, après c'est une habitude, on m'appelle l'ermite. J'aime bien la tranquillité, donc bon, l'hiver, moi ça me dérange pas.
Aline ?
Nous quittons le local personnel du gardien. Il nous emmène à présent visiter le musée et le phare en lui-même.
Aline ?
Changement d'ambiance, autant à l'extérieur, il fait très beau, autant quand on rentre à l'intérieur, ça résonne avec, pour commencer, la première pièce qui est un musée.
On a des pièces que des photos, que des personnes du coin nous ont données. Enfin, ont donné à l'époque à l'association.
Ce phare avec la pièce d'à côté, votre local, c'est chez vous, c'est votre maison.
Mais c'est chez moi, et puis moi je l'ai toujours connu, donc après...
Quel est l'endroit que vous préférez ?
Moi, le carré.
À proximité du phare.
À proximité du phare, oui.
Et c'est pas le phare en lui-même.
Si, j'aime bien le phare, mais bon, je monte pas en haut, j'y monterai pas tous les jours.
On peut y aller, là?
Bien sûr, vous pouvez monter, oui.
Donc forcément, il y a un escalier en colimaçon. Il y a combien de marches au total?
63.
Alors, vous savez qu'il y a une légende qui dit qu'il y a plus de marches à l'aller qu'au retour. Oui. Et vous savez pourquoi? C'est parce que c'est plus facile à descendre qu'à monter.
Il y en a qui descendent et il y en a qui arrivent à nous trouver, 72 marches.
On a presque le tournis, hein?
Oui.
Cocos, gardien du phare de Jodignac et Loirac, va reprendre les visites à partir du mois de mars prochain. En attendant, il se contente de profiter d'un cadre exceptionnel.
Ici,
actu locale, musique et bonne humeur.
Podcast. Un podcast ici, Berry.
Hé, il y a un Parisien en vacances chez la Marie. On pourrait l'emmener à la chasse au dahu, tic t'en dis.
En Perrichon dans le texte.
Il y a des panneaux routiers, attention, traversée de dahu. Avignon, puis amène tout salon. Ah, il y en a pas en Champagne-Berrichon, non. Bah, c'est trop plat. Bah oui, le dahu, c'est un bestiau qui a deux pattes plus courtes que les deux autres. Puis quoi, ils sont du même côté, il peut tenir debout sur un terrain pentu. Si c'est les pattes de droite qui sont plus courtes, le dahu, sur une colline, il tourne en rond, dans le sens des aiguilles d'une montre. Des fois, il croise des dahus aux pattes de gauche plus courtes, qui tournent dans l'autre sens. Mais imaginez une idylle entre les deux espèces qui pourrait donner naissance à un dahu aux quatre pattes pareilles, ça tient pas debout. Voici une histoire inspirée d'un récit de Georges Champeau. Quand il y avait chez nous un vacancier, qui avait pas l'air ben trop futé, on l'aminaudait. Quand il était ben ferré, on y faisait la faveur de l'inviter à chasser le dahu en quenou. Nous autres, on préparait une muse dans une bouchetue ou qu'on récartait une crotte de lapin pour faire puvrer. Le grand soir, à la tombée de nuit, on emmenait nous de gars devant le passage en clé crotte, puis on y donnait un sac en toile gardé ouvert par un lien de poinçon. On allumait une bougie devant la muse, puis on le faisait coucher le gars sur les crottes de lapin. L'ouverture du sac, ben perpendiculaire au sol, juste devant le trou. Après y avoir dit d'être ben patient, on s'en allait pour faire les rabatteux, ceux qui allaient y ramener le dahu vers sa bougie. Au bout d'une coupe d'heure, même s'il t'est pas ben malin, notre gars, il comprenait qu'on s'était foutu de lui. Puis, il rentrait au village. Et puis, comme il se vantait pas de son aventure, eh ben, on pouvait recommencer.
Écoutez ici, la nuit, et profitez du meilleur de nos podcasts. Un podcast ici Creuse.
Vous avez sûrement entendu parler du lycée professionnel qui porte le nom de l'écrivaine Delphine Gay. Mais ces grands bâtiments, c'était quoi avant ?
Je n'en sais rien, c'est un mystère. Je vous souhaite bonne chance dans votre quête.
José Soulier, c'était une manufacture de porcelaine qui à la fin s'est appelée Palace et qui était rattachée à la porcelaine de Limoges. Je pense que c'est dans les années 50 qu'elle a dû arrêter. Mais elle s'est appelée avant Michelot Frère, qui était aussi, qui faisait partie de Limoges dans les années 25. Et d'après ce que je sais, la porcelaine Michelot Frère aurait fait la vaisselle du Normandie.
José, qu'est-ce que vous tenez dans les mains ?
Une boîte en porcelaine de Bourganeuf, signée Palace. C'est un bleu avec un décor de fleurs et rehaussé à l'or tout autour. Quand on vide les maisons des gens du coin, on trouve des petites chaises, du petit mobilier pour les enfants que les gens s'amusaient à faire pour ramener chez eux, ce qu'on appelle dans un certain terme de la perruque.
Emma Loévan, en seconde à SSP, soins et assistance à la personne.
Est-ce que c'est plutôt neuf à l'intérieur, les bâtiments ?
La salle de Madame Denis, elle est neuve, mais sinon les autres salles, elles sont pas vraiment en bon état. Là.
Hélène, à l'époque, 79-80. Donc ça date, hein. Moi, j'étais en première, je préparais le bac de français cette année. Enfin, en gros, j'essayais de rattraper ma scolarité. Le lycée-collège Picard-Ledoux, lui, il est très ancien. Delphine Gay, c'est très récent.
En montant le chemin à la rue des écoles, là, on va tomber sur ce petit chemin qui est caché entre deux maisons. Donc là où il y a un marqué interdit de stationner, vous prenez ce petit chemin. Normalement, toute cette partie-là, un des moules, et vous êtes derrière le lycée Delphine Gay.
Qu'est-ce qu'on voit là à nos pieds ?
Un morceau de moule de la porcelaine, incrusté dans le chemin. Je pense que quand ils ont vidé tout ce qu'il y avait là, à cette époque-là, il n'y avait pas de déchetterie, donc on ne se posait pas de questions. On mettait ça en bas et ça remblayait le chemin. Le passé est sous nos pieds.
Si vous trouvez des moules de porcelaine aux alentours du lycée Delphine Gay, notamment dans le petit chemin qui est juste derrière, c'est le passé qui parle sous vos pieds.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos rediffusions et nos podcasts. Un podcast ici Normandie.
Franchement, s'il y a un truc que le confinement a changé, c'est notre approche du travail. On était combien avant 2020 à faire du télétravail ? Moi, par exemple, là, tel que vous m'entendez, je suis en Charentaise, dans mon petit home studio. Avant 2020, j'avais jamais bossé à la maison. Après, on n'est pas tous égaux face au télétravail. Pour mes copains restaurateurs, par exemple, c'est pas évident de bosser de chez eux. Pour répondre à votre question, c'est chez Cécile que je frappe.
C'est ouvert ?
Au 25 de la rue Maréchal, à la Bonneville-sur-Iton.
Bienvenue.
Ça va, Cécile ?
Oui, ça va, et toi, Fred ?
Bah, écoute,
j'ai envie de t'accueillir chez moi.
C'est chez toi, ici.
Oui, c'est ma maison.
C'est ça qui est étonnant.
Ouais, tu vois, là, ce beau meuble rempli de vrac. Avant, c'était là où il y avait mon canapé.
Ah.
Là, à la place de la lumière, t'avais mon poêle à bois.
Ah.
Et à la place du déo, c'était ma télé.
C'est tout mignon, mais en fait, t'as transformé ta maison pour les autres, quoi.
C'est ça. En fait, c'est mon salon, salle à manger, qui est devenu un salon de thé, épicerie, restaurant.
On entre chez toi.
C'est ça.
Donc, comme on entre chez Cécile, faut pas s'étonner.
De voir passer un chat, de voir les enfants en tenue de sport, mon mari, accessoirement.
Et voilà.
Et voilà, c'est l'ambiance familiale. Il y a beaucoup de restos qui se disent comme à la maison.
C'est à la maison, là.
C'est ça.
C'est ça. Et à l'étage, il y a quoi, là ?
La chambre des enfants.
Et donc, ouais, quand on réserve le soir, on demande aux gens de pas faire trop de bruit pour pas empêcher les gamins de dormir.
Non, ça va. Je suis pas comme ça, quand même. Mais je cale avec l'agenda. Faut pas que ça dérange les enfants. Faut pas qu'il y ait un match de basket, parce que je suis partenaire de l'ALM Basket à Évreux. Donc, le vendredi soir, jamais de résa.
Comme on est à la maison, Cécile a fait des bons cookies.
Je sais pas si tu veux déjà en manger un pour y goûter.
Pourquoi déjà ? Il y a pas d'heure pour goûter.
On goûte et on revient. Et Joanne et les enfants, ils l'ont pris comment que la salle à manger devienne le commerce à maman ?
Plutôt bien, en fait. Oui, voilà. Au début, je devais racheter un local et ça s'est pas fait. Juste ici, un soir, on boit l'apéro avec les amis. Je pense que je vais arrêter, j'ai pas de local. Et puis, il me dit, pourquoi tu fais pas ça ? Ici, là ?
Où ça ?
Ici, là.
Ah bah oui.
Et mon mari, il est dans la déco et il m'a dit...
Quand ça ?
Tout de suite. Ah bah oui, excellent, super bonne idée. Alors là, on va faire ça, là, on va mettre ça. Là, je vais te faire un meuble comme ça.
Donc, il l'a bien pris.
Voilà, ouais. C'est ça.
Sauf qu'il n'y avait pas que Joanne dans l'histoire.
Puis les enfants, ils se sont bien adaptés.
Cool.
C'est aussi super cool pour eux de se dire que maman est toujours à la maison.
Maman qui, avant ça, bossait dans la com.
Oui, j'étais dans la com pendant plus de 10 ans, même 15 ans, je crois.
Elle bossait dans la grande distribution.
Donc voilà, et j'ai eu envie de passer à autre chose, de me retrouver dans quelque chose qui me correspondait plus.
Même que maintenant, la pâte à tartiner qu'elle propose, c'est elle qui l'a fait.
Tu veux goûter ?
Bah ouais.
Alors attends. Donc là, je te mets la texture lisse.
C'est à quoi ?
Chocolat et noisettes, ce que tu vois là.
Tu peux finir ?
Ah bah oui, de toute façon.
Sa petite cantine à la maison, Cécile l'a appelée au bric-à-vrac.
Ça passe bien.
Je vous mets les infos et les photos sur l'appli ici.
again.
Champagne-Ardenne.
Ce petit village était bien plus qu'un lieu de résidence pour le général de Gaulle. Colombey-les-Deux-Églises, c'était son refuge, son havre de paix. Il le découvre en 1934 et tombe immédiatement sous le charme de ses paysages calmes, loin de l'agitation parisienne. Il y achète une maison, la Boisserie, où il vient se ressourcer avec sa famille. Pour De Gaulle, Colombey représente la France profonde, celle des clochers, des champs et du silence. C'est là qu'il médite, qu'il écrit ses mémoires et qu'il puise la force de ses grandes décisions. Pendant la guerre, il pense souvent à ce village comme au symbole d'une France éternelle qu'il veut libérer. Après son retrait du pouvoir en 1969, c'est encore à Colombey qu'il choisit de vivre ses derniers jours dans la simplicité. Et c'est naturellement là qu'il repose depuis le 12 novembre 1970. Trois jours après la mort du général, la France rend hommage à celui qui fut son chef pendant la Résistance et le fondateur de la Ve République. Ce 12 novembre, de très nombreuses messes sont données un peu partout en France. À Notre-Dame de Paris, ce sont 80 souverains, chefs d'État et de gouvernement qui sont présents, venus du monde entier, pour saluer la mémoire du libérateur de la France. Et en début d'après-midi, dans le petit cimetière de Colombey-les-Deux-Églises, la cérémonie est simple, à l'image de l'homme. À Colombey, les routes sont noires de monde. Et le contraste est saisissant. Une petite église de campagne et plusieurs dizaines de milliers de personnes. On parle de 40 à 50 000 personnes dans ce village de Haute-Marne. Le cercueil, recouvert du drapeau français, est posé sur un véhicule militaire. Il quitte le parc de la Boisserie, à quelques centaines de mètres de là, l'église. Le cercueil est porté par 12 jeunes habitants de Colombey. L'église ne peut contenir que 400 personnes. Ils sont des milliers à l'extérieur à écouter la cérémonie religieuse grâce à des haut-parleurs. Dans la foule, 350 compagnons de la libération. Dans le cimetière, sur la tombe familiale, une croix de Lorraine est gravée aux côtés de la mention sobre Charles de Gaulle, 1890-1970. Ce 12 novembre 1970, dans le froid de l'automne, à Colombey-les-Deux-Églises, la France pleure celui qui incarna pour beaucoup la dignité, la grandeur et l'indépendance nationale. Et c'est l'un des trésors de Champagne-Ardenne.
Ici, la nuit, on prend le temps de rattraper le temps. Écoutez nos replays et nos podcasts. Un podcast Ici Picardie.
Ici Picardie propose du lundi au vendredi de retrouver la romancière picarde Karen Ponte qui vient s'éparpiller et nous donner son billet d'humeur tous les jours. Bonjour Karen.
Bonjour. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'acheter un appareil électronique, un téléphone portable par exemple, de le brancher pour le charger une fois rentré chez vous, et là, au moment du démarrage, bim, mise à jour requise.
Ah oui.
Comment ça, mise à jour? Mais je viens de l'acheter, il est tout neuf. Et oui, après l'enfer des mots de passe, voici venu le purgatoire des mises à jour, qui sont censées corriger des bugs qu'on n'a même pas remarqués, et améliorer la fluidité d'utilisation de l'appareil, alors qu'on en est toujours réduit à temps le bras en l'air dans nos jardins à la recherche d'une barre de réseau. Oui. Je suis sûre que vous avez tous au moins une fois vécu ce moment où, alors que vous êtes pressé, que vous avez besoin de vous servir d'une application, vous l'ouvrez et là, bim, de nouveau, mise à jour de l'application requise. À croire qu'il y a un algorithme à l'intérieur qui guette le moment où ça nous cassera le plus les pieds. Alors bien sûr, on peut ignorer ce chiffre des mises à jour disponibles, mais si on le fait, arrive ce jour funeste où plus rien ne fonctionne et on est bon pour retourner à l'âge de pierre, c'est-à-dire à l'époque des téléphones filaires. C'était facile au moins à l'époque, on pouvait rien faire d'autre que téléphoner avec nos téléphones, mais au moins ça fonctionnait toujours. Enfin, si on occulte les téléphones à cadran, où est leur manière de nous échapper des doigts au moment du dernier chiffre. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? Et donc, ça nous obligeait évidemment à tout recommencer. Je rappelle que la petite boule en plastique au bout des bics de quatre couleurs servait à ça.
Ah mais oui!
À tourner les numéros des cadrans.
Exact.
Je vous dis à demain et d'ici là, rappelez-vous qu'être focus, c'est bien, mais qu'être éparpillé, c'est encore mieux.
Karen Ponte, autrice picarde, qu'on retrouve évidemment avec ses billets d'humeur sur notre site ici.fr.
Ici. Je sais bien que t'as voyagé dans les plus beaux pays, goûté les plus beaux hôtels et les grands lits. Près de lui, le chemin du bonheur est bien droit. J'ai compris. Avec moi, c'est vrai que notre lit sera plus petit, parce que je veux que tu sois plus proche de mes bras. La route vers le bonheur sera plus longue aussi, juste pour avoir plus de temps. habillés de bijoux, de parures, de tout ce qu'il y a de plus cher aujourd'hui. Vous vivez dans le plus bel appart de la rue, j'ai compris. Avec moi, t'as pas besoin de tout ça puisque rien ne t'habille. Nous on vivra au-dessus du monde sur les toits. Et de toute façon les bijoux ça s'arrête.